La Méridienne.
Et tout de suite, on retrouve le prof Patrick pour une rubrique Nuances du Monde. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Alors de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans cette rubrique ?
Eh bien pour cette nouvelle année 2024, je vais commencer l'année avec un double hommage à David Graeber. Double hommage parce que ça m'occupera deux chroniques. David Graeber, c'est un anthropologue qui est décédé en 2020, anthropologue américain, décédé à 59 ans, il en avait sous la godasse, c'est dommage. C'est quelqu'un qui a été très important. D'abord, ça a été vraiment un scientifique extrêmement important de ce début du XXIe siècle par son œuvre scientifique. Il est un peu connu pour d'autres éléments, mais je vais laisser de côté. Il m'a grandement aidé à mettre en contexte notre monde actuel. Il m'a aidé à comprendre les vraies origines de notre monde, au-delà de la propagande de la pensée dominante. Et c'est pour ça que je ruminais cet hommage depuis environ un an et demi. Et bien, ça y est, j'y suis.
Alors, anthropologue, déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est
Oui, c'est un scientifique qui s'intéresse aux civilisations passées,
ouais.
Qui peut remonter à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'années. Et ça nous permet d'éclairer la compréhension de notre monde contemporain. La première chronique que je fais aujourd'hui, elle va parler de monnaie, de dette et de ce qu'est le capitalisme selon David Graeber. Elle est tirée de l'analyse d'un de ses ouvrages qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire » qui a été publié en 2011. Alors on va commencer par une petite histoire, la petite histoire que nous racontent encore aujourd'hui tous les économistes depuis Adam Smith, fin 18e siècle. Petite histoire, au début la monnaie n'existait pas, le troc permettait les échanges. Et ensuite est apparue la monnaie, puis le crédit qui est apparu encore plus tard. Fin de la petite histoire. Mmh. Tu sais quoi Mathieu ? Tout est faux dans ce récit.
C'est vrai ?
Tout est faux. Les économistes propagent en toute conscience une fake news, alors que la science a prouvé depuis au moins le début du XXe siècle que c'est un tissu d'ânerie.
D'accord.
Le succès mondial de l'immense ouvrage donc, de David Graeber, « Dette, 5000 ans d'histoire », nous a permis de comprendre pourquoi on nous répète encore et encore ces fadaises. On y reviendra. On va regarder ça en détail. Déjà, aucun pays du troc n'a jamais existé. Le troc n'a été pratiqué que sporadiquement, uniquement avec des étrangers ou des ennemis. 2. Alors que le storytelling des économistes nous dit que le crédit a été le système qui nous a permis de nous passer de la monnaie, c'est le contraire qui est vrai. En fait, le crédit a préexisté à la monnaie, le crédit a permis l'apparition de la monnaie, et pendant longtemps, le rôle de la monnaie a été très réduit, il n'a progressé que lentement. Alors je vais articuler ma chronique en trois parties. Première partie, à l'origine. On a vécu pendant des milliers d'années dans ce que David Graeber appelle des économies humaines fondées sur le communisme.
C'est vrai.
Oui, alors rien à voir avec Marx et avec la propriété des moyens de production. Ce qu'il appelle le communisme, c'est un principe d'entraide. D'entraide permanente entre les membres du groupe. C'est un principe où chaque être humain est un nœud de relation avec tous les autres. Ce qui signifie qu'il est impossible d'acheter ou d'échanger des êtres humains dans ces sociétés-là. Tout fonctionne sur l'entraide, c'est-à-dire sur une première forme de crédit. Je t'aide, tu m'aideras plus tard. Un crédit non monétaire, sans intérêt.
Okay.
Tout ça, petit à petit, s'est peu à peu effondré.
Ouais.
Malheureusement, sont apparues les sociétés héroïques, c'est-à-dire des sociétés où la violence permet de rehausser la réputation de chacun, la notion d'honneur. Comment ? En écrasant d'autres. La violence, c'est le processus par lequel on en vient aux femmes données en mariage et aux esclaves capturés à la guerre. Ces processus étaient initialement marginaux dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et puis petit à petit, ils vont devenir de plus en plus importants et devenir centraux, ouais, dans nos sociétés. Deuxième partie, comment sont apparus les marchés ? Eh bien, on a évoqué le communisme socle probable de tous les rapports humains, mais ce n'est pas le seul socle. On va voir deux autres socles qui sont apparus petit à petit. Le deuxième socle, c'est un certain système d'échange nouveau, qui, lui, va remettre en cause la notion d'entraide que j'ai présentée précédemment, parce que ce système d'échange nouveau est fondé sur le calcul. On va donc passer d'une situation où on doit une faveur à quelqu'un, l'entraide, le communisme, à une situation où on a une dette vis-à-vis de quelqu'un. Et la différence, c'est que le montant de la dette peut être calculé avec précision, et que le calcul exige l'équivalence. Donc, c'est là qu'on en vient à traiter les personnes comme des choses. D'abord, les femmes. Je te prends une de tes trois filles en gage pour le prêt de 150 boisseaux de grains que je te fais. Et ensuite, les ennemis et les étrangers en général qui deviennent des esclaves. Mmh. Avec ce système d'échange nouveau arrive un système hiérarchique. Oui, parce que pour imposer ce système d'échange nouveau, il faut de la force, il faut des armes, donc il faut de la hiérarchie. Donc concrètement, les tout premiers marchés ont été créés par les premiers États, en Mésopotamie antique notamment. Les États avaient besoin d'argent pour financer la guerre. Donc ils ont créé de la monnaie, ils ont imposé aux citoyens d'utiliser cette monnaie pour payer les impôts, et avec cet argent, ils ont pu payer les approvisionnements, payer les soldats. Et la monnaie est apparue comme ça, créée par l'État, et petit à petit, son usage s'est un petit peu répandu, pas uniquement aux impôts, mais aux autres achats. Mais il faut savoir que, pendant très longtemps, le système économique continuera à fonctionner essentiellement sur le crédit. La monnaie restera quelque chose de très secondaire. En tout cas, enseignement, c'est la violence par les guerres, la conquête et l'esclavage qui a joué un rôle central dans l'apparition des économies de marché. Et là, on a la réponse à la question de tout à l'heure. Pourquoi les économistes nous serinent la fadaise du troc et de l'échange harmonieux ? Eh bien, ce mythe du troc est une fadaise qui est répétée par les économistes pour éviter de regarder en face cette réalité sordide. Les marchés sont nés de la violence. Au Moyen-Âge apparaît le populisme de marché, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les marchés peuvent exister en dehors de l'État. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on s'approche un peu des conceptions modernes du libéralisme économique. Cette idée émerge dans l'océan Indien musulman, en Chine, au XVe siècle, donc vraiment dans de multiples endroits. Et ça se fait dans des situations où les marchands, pour diverses raisons, vont s'allier au peuple contre l'État. D'accord ? Et ça va fonctionner hein, dans ces régions musulmanes notamment et en Chine. Pendant longtemps, il y a des marchés qui fonctionnent en dehors de l'intervention de l'État. On passe à la troisième partie, l'apparition du capitalisme. Alors, si on fait une définition rapide du capitalisme, très simple, on va dire que c'est un système qui exige une croissance permanente et sans fin du profit. Voilà. Alors, comment est apparu le capitalisme ? On a déjà vu le point de départ des économies de marché, c'est la guerre et la violence. On pourrait dater le moment historique de la naissance du capitalisme avec la conquête des Amériques. Et ces génocides insensés qui vont être commis par les conquistadors espagnols et portugais, et ensuite par les autres Européens. Le système de marché mondial que les empires espagnols et portugais ont constitué, avec cette conquête des Amériques, c'est la recherche des épices. Mais très vite, ce système s'est stabilisé autour de trois grands commerces. Le commerce des armes, le commerce des esclaves, le commerce de la drogue. Et ça s'est fait par l'alliance de deux personnages, l'aventurier et le financier. L'aventurier, c'est la personne qui s'endette pour financer des aventures et qui va se débattre sans fin pour se sortir de ses dettes. On peut se représenter le commerce transatlantique des esclaves comme une sorte de chaîne géante de dettes qui crée des obligations pour tous les débiteurs. Prenons l'exemple de Cortés, le fameux Cortés qui a conquis et massacré tant de personnes. Et bien en fait, il a été richissime à un moment, mais il est resté couvert de dettes toute sa vie.
Ouais.
Tout à fait. Derrière la conquête des Amériques, on découvre le scandale secret du capitalisme. À aucun moment, le capitalisme n'a été organisé essentiellement autour d'une main-d'œuvre libre. Le postulat qui pose que par essence, le capitalisme a quelque chose à voir avec la liberté est un gigantesque mensonge. Les millions d'esclaves, de serfs, de coolies, de péons sont la réalité cachée du système capitaliste. Alors on revient fin du XVIIIe siècle avec Adam Smith qui arrive avec sa petite histoire, son mythe du troc, de la main invisible, de l'acteur rationnel. En fait, ce mythe va être très important parce qu'il apporte la vision d'un monde qui quand il l'écrit, est un monde imaginaire qui n'existe pas et qui petit à petit va apparaître.
Ouais.
Prophétie autoréalisatrice. Dans cette vision imaginaire, la dette et le crédit n'existent quasiment pas. Et on est libéré de cette culpabilité du péché issu de la sordide réalité des marchés et du capitalisme créé par la violence et le vol. En fait, c'est un modèle. Un modèle, c'est très utile pour les représentations des êtres humains et aussi pour la science. On peut travailler, faire de l'analyse scientifique à partir de là. Le problème, c'est qu'ensuite, on a eu la faiblesse de considérer ce modèle comme une réalité objective. Et on a eu la faiblesse de nous soumettre à ce modèle. Et même à l'adorer comme un dieu, nous devons nous soumettre, obéir aux impératifs des marchés. C'est ce que les économistes libéraux nous serinent depuis deux siècles. Pire encore, une des caractéristiques du capitalisme moderne, c'est qu'il a fait en sorte que nous n'osions même plus imaginer une alternative qui puisse être meilleure que le système actuel. Pour maintenir cette certitude, le capitalisme moderne s'est créé un gigantesque appareil militaire, carcéral et policier. Il a suscité un climat général de peur, de conformisme chauvin, hein, on sent les bonnes odeurs, hein, et même de désespoir tout simplement, dans lequel l'idée même de changer de monde paraît un fantasme vain. Conclusion de David Graeber. La réalité, c'est que l'argent n'est pas sacré. Que payer ses dettes n'est pas l'essence de la morale. La dette et l'argent ne sont que des arrangements humains que l'on peut revoir et remettre en cause. Qu'est-ce que c'est qu'une dette finalement ? Une dette, c'est la perversion d'une promesse. C'est une promesse doublement corrompue par les mathématiques et par la violence. Si la liberté, la vraie, c'est celle de se faire des amis, elle doit être aussi la capacité à se faire de vraies promesses. Lesquelles ? C'est à nous de les inventer. J'en ai terminé.
On finit sur une touche d'espoir alors qu'on était quand même dans une zone un peu tristoune, je trouve. Merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
À très bientôt. La Méridienne.